Téléchargez l'appli RMC.
Pendant l'Euro de foot en Allemagne, RMC se dédouble sur Internet et vous offre une deuxième radio.
RMC 100% Euro avec Winamax. Pour écouter tous les matchs de la Coupe d'Europe des Nations en intégralité.
RMC, radio officielle de l'UEFA Euro 2024. Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct d'Angers.
Jean-Christophe Drouet.
11h06, oui, les grandes gueules du sport en direct d'Angers à l'occasion des championnats de France d'athlétisme avec un temps fort, un premier temps fort à partir de 13h, le saut, les premiers sauts de Renaud Lavillenie qui va tenter de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec Fred Weiss, Sarah Pitkowski, Ludovic Duchesne et une nouvelle grande gueule, Pierre-Ambroise Boss, qui fait ses débuts dans cette émission, lui qui fait partie de la Dream Team RMC pour les Jeux Olympiques de Paris. Dans quelques instants, magique Romain Bardet qui va porter le maillot jaune pour la première fois de sa carrière. A-t-il enfin l'aura des Pinot ou encore des Alaphilippe? Nous ouvrirons le débat dans quelques instants. 11h30, Mélina Robert-Michon, notre championne du disque, qui va participer à ses 7e Jeux Olympiques, candidate pour être porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie d'ouverture. Elle sera notre invitée, tout comme Teddy Tomgo. Donc restez bien avec nous. On a encore beaucoup, beaucoup de choses à vous raconter. On va débuter cette nouvelle heure avec cette citation de Philippe Stark qui a dit un jour: l'image publique ne dit rien de la vérité.
RMC, les grandes gueules du sport passent la seconde.
Romain Bardet qui quitte à l'instant le peloton. On rappelle qu'il n'y a plus qu'une 16 entre le peloton et les 5 échappés. Si on l'avait, notre première victoire française dès le premier jour, ça serait pas beau ça.
Bardet,
il reste 50 km, 36 km de l'arrivée et Romain Bardet est revenu sur les échappés où on trouvait un autre Français, Valentin Madouas. 2 km encore à parcourir, 14 secondes, ça va jouer à rien, à rien.
La flamme rouge du dernier kilomètre, c'est maintenant.
Première étape du Tour de France 2024. Ils sont deux, Frank van den Broek avec Romain Bardet dans sa roue. Ils n'ont plus que 500 mètres encore à parcourir. 250 mètres désormais même. Ils vont peut-être le faire.
Oui.
Allez Romain, il faut y aller. Romain, il faut y aller. Il faut essayer de sprinter. C'est très important maintenant. Il ne reste plus rien parce qu'il y a Wout van Aert qui est derrière.
Mais
et la victoire de Romain Bardet devant van den Broek. La victoire française ici, le maillot jaune. Wout van Aert est battu. Le match France-Belgique est remporté par la France.
Quand on partait de bon matin, quand on partait
à
sur
quel
les
moment
chemins,
vécu hier sur RMC avec notre Dream Team Vélo en direct d'Italie. Pierre-Yves Leroux au commentaire. Vous avez également reconnu un ami, un habituel de ces grandes gueules du sport. C'est évidemment Christophe Cessieux qui est en direct avec nous. Salut Christophe.
Bonjour à tutti.
C'est fou, hein. Il parle déjà italien. Il passe
en deux jours, j'ai appris l'italien. En deux jours.
Incroyable. Christophe, que l'on adore, hein. Et vous le retrouvez tous les samedis, les dimanches dans les grandes gueules du sport. Et même quand il est en Italie, il est avec nous pour partager un débat. Alors, Christophe, c'est vrai qu'on va parler de Romain Bardet. On a vécu un moment incroyable. Hier, il a fallu tout de même qu'il annonce la fin de sa carrière pour voir enfin le maillot jaune s'offrir à lui. Hier, lors de la première étape du Tour de France, Romain Bardet a réalisé un numéro fabuleux, remportant l'étape et donc la fameuse tunique jaune pour la première fois de sa carrière. Enfin, son jour de gloire est arrivé. Lui, le coureur qui a toujours vécu dans l'ombre des Pinot, des Alaphilippe, malgré une régularité rarissime sur le Tour pour un Français. Écoutez ça. 4 victoires d'étape sur le Tour, 8 top 10 au général, 6e en 2014, 2e en 2016, 3e en 2017, 6e en 2018, 6e en 2022, le maillot à pois sur les champs en 2019. Aujourd'hui, Romain Bardet va vivre sa première journée en jaune. La musique qui fout les jetons. Et cette question: a-t-il enfin l'aura des Pinot et à la Philippe? Oui ou non, Sarah Pitkowski?
Oui.
Fred Weiss?
Non.
Ludovic Duchesne?
Oui.
Christophe Cessieux?
Il lui en manque encore un tout petit peu.
Encore un peu. Pierre-Ambroise Boss?
Oui.
Avant de débattre, on va retrouver notre envoyé spécial en Italie, aux côtés de Christophe Cessieux, Arnaud Souk. Salut Arnaud.
Salut les amis.
C'est vrai que c'était une journée de rêve pour Romain Bardet hier.
Oui, une journée parfaite, Jean-Christophe, pour Romain Bardet qui a enfin libéré de la pression du classement général pour son dernier Tour de France, est allé chercher un bon de sortie à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée de la première étape pour finalement déjouer tous les pronostics, bien aidé, avouons-le, par son équipier Frank van den Broek, dernier escapé de l'échappée matinale. Romain Bardet qui avait du mal à y croire hier, enfin maillot jaune pour son 196e jour de course sur la grande boucle.
Je me sens un peu étranger dans ce corps-là.
Ça a toujours été un de mes buts de carrière. Honnêtement, j'avais fait un petit peu le deuil. Comme quoi, dans le vélo, il y a encore des moments inattendus qui se passent. C'était sublime.
Sublime, oui, pour Romain Bardet, pour toute une équipe, à commencer par l'autre français de la DSM Firmenich, le breton Warren Barguil, l'ami intime de l'Auvergnat, est particulièrement heureux lui aussi hier à l'arrivée.
Ouais, bah c'est surtout aussi un coéquipier, c'est mon collègue de chambre, donc forcément, ouais. T'es hyper motivé au départ ce matin. Romain, il est bien sorti du Giro, et il me l'a dit, qu'il avait les jambes de sa vie, et c'est ce qu'il mérite depuis longtemps de l'avoir, donc forcément, là, c'est top.
Voilà, un hommage général hier dans le peloton. Romain Bardet est en besogneux, en méticuleux, rarement gagnant, toujours placé, en témoigne ses 51 deuxième places sur des courses depuis le début de sa carrière professionnelle, d'où les félicitations appuyées de son ancien directeur sportif chez Decathlon AG2R, avec qui il avait entre 2014 et 2017 gagné 3 étapes sur le Tour de France. Écoutez Julien Jourdi.
C'est ce qui lui manquait, c'est ça qui est vraiment extraordinaire et super beau, c'est que l'histoire de Romain avec le Tour est juste fantastique, avec ses victoires, ses podiums. On ne pouvait pas mieux espérer, donc c'est vrai que dans la voiture, on a aussi tremblé, on espérait vraiment qu'il aille au bout avec son collègue.
Voilà, une journée décidément étonnante pour Romain Bardet, qui n'a pu le soir savourer son succès en équipe qu'une fois arrivé à l'hôtel. Et oui, parce que le bus de la DSM Firmenich est tombé en panne. Il n'a pas pu rallier l'arrivée hier à Rimini. Un deuxième bus est bien là, en revanche, ce matin au village départ à Cesenatico, sur lequel on peut lire Victoria Cycling, avec pour fêter ce premier jour en jaune de Bardet, son papa et son premier entraîneur, notamment présent aux côtés du champion.
Merci beaucoup Arnaud Souk pour ce reportage. On te retrouve évidemment notamment sur la moto durant l'intégral tour à partir de 14h, à partir de 13h le dimanche. Donc ça va débuter dans quelques minutes. Merci beaucoup Arnaud Souk. Romain Bardet a-t-il enfin l'aura des Pinot, des Alaphilippe? C'est oui pour Ludovic Duchesne. Pourquoi oui?
Moi, je vais être honnête avec vous, je suis pas objectif sur Romain Bardet, parce que j'aime ce mec. J'ai toujours aimé ce coureur, j'aime sa mentalité, j'aime son professionnalisme, j'aime... Hier, par exemple, s'il avait continué de jouer le classement général, il n'aurait pas gagné l'étape. Je pense que ça l'a bâillonné, ça l'a attaché, ça l'a empêché peut-être de plus grandes performances. Alors après, il a fait deuxième, il est monté deux fois sur le podium du Tour, il a été deuxième aussi lors des championnats du monde. C'est sûr que c'est un coureur qui fait moins de bruit, fait pas de déclarations fracassantes, il fait pas de show business, il est pas là-dedans.
Ouais, mais ça fait partie aussi du folklore, ça fait partie de pourquoi on l'aime aussi.
Mais par contre, Fred, il a poussé son sport à l'extrême. Il a été le plus loin, et ça fait des années que ça dure. Ça a été l'exemple d'énormément de coureurs. Et moi, ce que je retiens de lui, c'est ça. Et pourquoi il est aimé dans le peloton? Parce qu'il est très proche des coureurs, parce qu'il est très proche des Français. Il est capable d'aider un Français, même s'il est pas dans son équipe, dans une échappée. Et quand Julien Alaphilippe prend un poteau, je crois que c'était sur Liège-Bastogne-Liège, quand il est, on croit qu'il y a, le pire est arrivé. Le mec qui s'arrête pour aller voir son pote, Julien Alaphilippe, c'est Romain Bardet. Quitte à perdre la course, il lâche tout, il fait tomber le vélo, il va voir Julien Alaphilippe. Mais Romain Bardet, c'est ça.
Ludo,
c'est un grand mec.
On n'est pas en train de parler de ça. Alors, tout le monde sera d'accord pour dire que c'est un énorme coureur, qui a eu des performances incroyables, que c'est un super mec, que tout le monde l'aime. Sauf qu'il n'a pas l'aura par rapport au grand public.
Parce que
c'est ça qui est important.
Et pourquoi? L'aura médiatique.
Ah oui, le show business,
ça fait partie. Il y a les épopées, déjà le fait de garder le maillot un peu plus longtemps sur le maillot jaune, parce que on te voit, le fait d'être champion du monde, des choses comme
le
ça.
Maillot
déjà,
jaune, ça joue.
Pardon.
Le maillot jaune, ça joue. Je le rejoins.
Oui, mais oui. Sauf que le prendre une fois, c'est peut-être pas suffisant. Effectivement, s'il pouvait le conserver un petit peu, c'est énormément. Oui, mais c'est magnifique, bien sûr. Sauf que encore une fois, c'est pas une épopée, c'est un épiphénomène.
Mais Fred, alors là, venant de toi,
et moi, j'ai pris énormément de plaisir.
Venant
Ludo,
de toi,
t'arrêtes tout de suite. J'ai pris énormément de plaisir hier sur l'étape. Elle était incroyable et j'étais ravi.
Venant de toi, tu peux pas dissocier le champion de l'homme. Et quand tu sais que l'homme est peut-être même encore plus intéressant.
Sauf que je ne parle pas de moi là. Là, je me fais l'avocat.
Non, je te parle de Romain Bardet, moi.
Oui, mais non, parce que je veux dire, je parle pas de moi dans le sens où je te rejoins complètement. Sauf qu'il faut être objectif par rapport à l'aura qu'il a, mais par rapport au grand public.
Justement, Christophe Cessieux, comment on explique ce manque de reconnaissance?
On explique ce manque de reconnaissance par son caractère, parce que Romain, c'est pas un flamboyant comme peut l'être Julien Alaphilippe, qui, rappelez-vous, lorsqu'il a remporté une étape du Tour, faisait faire le clapping à ses supporters. Romain Bardet, c'est pas le même genre. C'est pas non plus du tout le même genre que Thibaut Pinot, qui lui est un perdant magnifique, parce que Thibaut Pinot, mis à part une grande victoire dans le Tour de Lombardie, il a moins de succès sur les routes du Tour. Il a jamais porté le maillot jaune. Oui, mais il provoquait un frisson, peut-être plus par ses défaites que par ses victoires. Romain, c'est un caractère plus effacé, c'est un garçon qui a un côté un télo, et c'est vrai qu'auprès du grand public, alors auprès des gens qui adorent le vélo, ou même auprès du peloton, je pense qu'il est plus populaire que les deux autres, mais auprès du grand public, celui qui ne s'intéresse qu'au Tour de France, eh bien Romain Bardet est un peu plus effacé et moins apprécié qu'un Thibaut Pinot. Alors évidemment, s'il parvient, comme Julien Alaphilippe l'avait fait il y a quelques années, à garder ce maillot jaune l'espace d'une semaine et à faire vibrer les foules, là je pense qu'il sera vraiment à la hauteur. Et puis, le fait que Thibaut ait pris sa retraite et que Julien ne soit plus vraiment le même Julien, il y a quand même une petite place à prendre. Il lui reste peu de temps puisqu'il s'arrêtera à la fin de la saison, mais il y a une petite place à prendre. Mais pour cela, il faudrait vraiment une épopée. Il faudrait une épopée,
oui,
parce qu'autrement, ce sera difficile d'égaler la popularité énorme de Pinot et d'Alaphilippe.
Il parle d'épopée, Christophe Cessieux. Il lui faut une épopée, Sarah Pitkowski.
Il lui faudrait une épopée, mais si on parle juste en termes de palmarès, c'était même une erreur. C'était une erreur d'avoir un Bardet ne portant pas le maillot jaune, sachant que c'est un coureur qui s'est construit sur le Tour de France, qui
a tout donné pour ça.
Qui réfléchissait ses entraînements, la rigueur, la méticulosité de
la nutrition.
La
poussée à l'extrême.
Cet homme-là, ce sportif-là, ne vivait et ne s'entraînait que pour le Tour de France. Et il a dit une phrase hier qui m'a fait tilt. Il dit, en fait, je courais jusqu'à maintenant pour ne pas perdre de temps. Et en fait, tu te dis, t'imagines un champion qui utilise le terme perdre alors que son objectif, c'est de gagner le Tour. Donc c'est dire avec... Et c'est là, je me suis dit, mais il devait avoir une pression à chaque fois qu'il prenait le départ du Tour en se disant, il faut que je perde le moins de temps possible sur chaque étape pour pouvoir jouer ce fameux titre et ce maillot jaune à la fin.
Hier, il l'aurait jamais fait.
Et hier, il dit, mais quitte à prendre 20 minutes,
oui,
j'y vais. Et c'est là que tu dis, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire que parfois, quand tu prends une décision sur ta carrière, il y a un milliard de blocages qui tombent. Tu ne sais pas par quel miracle.
Ouais,
et je pense que c'est cette chose-là.
Sauf que c'est dès le début, il avait couru comme ça, tout le monde l'adorerait.
Oui, mais
est-ce qu'il aurait la même carrière?
Non,
il n'est pas détesté non plus.
Il ne courait pas pour ça.
Non, mais c'est la vraie question. La vraie question de savoir si son aura pourra rattraper
sa motivation de faire le Tour, elle n'était pas pour ça.
Et en fait, il y a deux choses. Effectivement, il y a des coureurs qui courent pour faire des résultats, pour faire des performances, pour respecter les règles qu'ils se sont fixées, et d'autres qui veulent faire des performances, mais surtout être connu et avoir une aura.
Bah, dans un second temps, on se posera la question de savoir s'il a raté sa carrière médiatique, on va dire, sa carrière, en tout cas d'amour avec le public, s'il avait couru différemment. Mais sur cette idée de l'aura des Pinot, des Alaphilippe, Romain Bardet, oui, Pierre-Ambroise Boss.
Non, mais on ne rate pas une carrière médiatique, on rate une carrière sportive. En l'occurrence, moi je suis d'accord avec Sarah, un talent comme ça aurait dû avoir le maillot jaune avant. En l'occurrence, je suis aussi d'accord avec Ludovic dans le sens où c'est parce qu'il a été décomplexé qu'il a certainement gagné ce maillot jaune. Et je pense que c'est malgré lui maintenant, désormais, cette aura lui tombe dessus. Il n'a pas le choix.
Qu'est-ce qu'il va en faire?
Moi, je pense que c'est son dernier maillot jaune.
Magnifique.
Mais je vais prendre le contre-exemple de Lionel Messi qui parle pas beaucoup dans les médias non plus, mais malgré lui, tout le monde l'aime.
C'est mieux.
Pourquoi? Bah, parce que, en fait, c'est le meilleur
moyen quand même.
Pardon, mais là,
pendant des années.
Dedans, pas Messi.
Je vous propose d'écouter Romain Bardet.
Il y a une aura, c'est ça que je veux dire.
Nous, on l'aime pas.
Vous l'aimez pas, vous?
Je vous propose de l'écouter, Romain Bardet, et non Lionel Messi. C'était avant le début du Tour, sur la reconnaissance du public. Il venait d'annoncer qu'il allait arrêter sa carrière et que c'était son dernier Tour de France.
J'ai toujours été très encouragé dans des routes. C'est un de mes regrets de ne pas avoir pu plus donner en retour parce que voilà, depuis 2014, j'ai jamais souffert d'un manque d'infection, mais au contraire, j'ai justement plus eu de mal à donner en retour en termes de temps, disponibilité. J'espère rester fidèle à ce que je suis et c'est pour ça que je veux pas que ce soit 3 semaines de procession, de tournée d'adieu parce qu'il n'y a pas du tout, c'est pas du tout mon état d'esprit.
Il ne veut pas de tournée d'adieu. C'est vrai que voilà, c'est pas la même chose qu'un autre coureur. On sait, il est discret. Christophe, sa façon de courir, sa façon de jouer le général, sa façon de voir son sport, est-ce que ça a pu lui nuire? Je parle d'amour et d'aura médiatique.
Non, ça lui a pas nuit parce que je pense qu'à la différence d'un Julien ou d'un Thibaut, je pense que Romain avait moins de talent intrinsèquement que ces deux-là et qu'il a su optimiser complètement ses qualités de cycliste. Je dis que c'est un mauvais coureur, loin de là, hein, quand tu remportes 4 étapes du Tour de France, mais il a optimisé tout ce qu'il a fait à la différence d'autres et donc il y a pas de regret à avoir. Si le petit regret, c'est évidemment d'avoir joué le classement général, mais quand on est français et quand on débute une carrière et qu'on arrive à monter sur le podium très très rapidement au début de carrière. Évidemment, tout le monde l'a dit, voilà, c'est peut-être enfin le successeur de Bernard Hinault. Et puis il y a eu cette bagarre avec Thibaut Pinot. Tu vois, c'était les deux garçons sur lesquels on comptait. Donc ils s'alignaient un petit peu. Ils avaient un peu les mêmes attentes autour d'eux au départ d'un Tour de France. Donc si l'un jouait le général, l'autre était obligé de jouer le général également, parce qu'il y avait une vraie rivalité entre ces deux garçons-là. Mais moi, je pense pas qu'il ait raté sa carrière parce qu'il a choisi le classement général. Il avait les qualités peut-être pour aller chercher un Tour de France. Il n'était pas tombé sur des Chris Froome à un moment ou sur des Pogacar ou des Vingegaard. Il lui a manqué un petit quelque chose, mais moi je pense pas qu'il ait raté sa carrière, loin de là. C'est fantastique quand même quand tu remportes 4 étapes du Tour de France. Même Pinot, même Alaphilippe n'ont jamais réussi à faire aussi bien.
Quel aveu quand même ces dernières semaines de Romain Bardet, qui a déclaré notamment dans l'équipe il y a un mois, faire un top 5 en suivant tout le temps et en étant à la limite de péter, bah je me sens nul, je l'ai trop fait, j'ai fini tellement de grands tours dans le top 10 éreinté et sans une grande satisfaction.
Mais parce que tu lèves pas les bras. Et c'est vrai que comme il le dit lui-même, il a pas souvent gagné. Ça peut être surprenant quand tu fais partie des meilleurs coureurs du peloton de ne pas souvent gagner. Mais c'est la réalité de Romain Bardet.
Mais Arnaud Souk l'a dit,
51 fois deuxième. C'est-à-dire qu'en fait, il a quand même accompagné, il a été là, il était dans les bons coups. Sauf que il y a qu'un seul deuxième magnifique. Et tout le monde le connaît.
Alors, après, je vais même pas le dire.
Il n'a jamais porté le maillot jaune, le perdant magnifique auquel tu penses.
Évidemment, Fred. Mais il était magnifique.
On peut dire son nom, hein. Il y a pas d'ombrage, hein. C'est Poupou.
Je vais quand même le dire. Dans un sport où certains trichent, je pense que Romain Bardet, ses 50 places de deuxième, il y en aurait beaucoup qui l'auraient peut-être mérité d'être premier. Oui, mais énormément d'arrivées.
Elles sont déjà magnifiques quand même.
C'est déjà magnifique. Il faut quand même reconnaître la réalité. Je veux le dire parce qu'il est tellement magnifique. Il est tellement sur un vélo. Il a tellement poussé loin son sport et son professionnalisme que il faut lui rendre ça aussi et il faut aussi le dire parce qu'on est sur RMC. Je me permets de le dire.
Pierre Ambroise, toi qui as connu l'amour du public un jour de 2017 avec ce titre de champion du monde, est-ce que quand on est sportif de haut niveau, on s'attache quand même à ça, à l'image qu'on renvoie et à l'amour que l'on peut donner? Parce que même Romain Bardet l'a expliqué dans le son qu'on vient d'écouter. Oui, c'est peut-être pas assez livré au public, bah, c'est peut-être pas sa nature. Est-ce qu'en tant que sportif de haut niveau, il faut forcer sa nature?
Ça nous apprend beaucoup de choses, le sport. Et le sport de haut niveau en particulier, ça fait changer des personnalités, bien entendu. Moi, je considère que c'est ça qui m'a ouvert aux gens. C'est grâce aux médias, c'est grâce au public.
Toi, t'es un showman. Enfin, je veux dire, t'as rien à voir, par exemple, avec Romain Bardet.
J'étais un anxieux, comme certainement Romain Bardet a pu l'être. Et parfois, tu te retrouves au devant de la scène par rapport à certaines courses, certainement celle qu'il a vécue hier. Ça va peut-être le propulser et le faire changer. Et peut-être qu'il va pas vraiment arrêter sa carrière finalement. Ça sera peut-être pas son dernier tour. Qui sait?
Et on est comme on est aussi, hein.
Il va peut-être y prendre goût. De quoi?
On est comme on est aussi.
Oui, mais est-ce que toi, t'as forcé ta nature pour justement avoir cette aura? Parce que quand on parle d'athlétisme, Pierre Ambroise Boss aujourd'hui, t'as pas gagné 50 médailles. T'as eu une magnifique carrière, mais t'as pas fait toujours premier aux Jeux Olympiques.
J'ai plus perdu que gagné, bien entendu.
Exactement. Et pourtant,
c'est pas parce qu'on est comme on est, mais tu vois, qu'on est à l'aise avec ce qu'on est. Et peut-être que Romain Bardet n'est pas à l'aise dans ce qu'il est aujourd'hui. Et peut-être que les médias, si c'était pas un peu plus ouvert.
Peut-être qu'il va trouver aujourd'hui, qu'il va recevoir aujourd'hui ce qu'il a jamais eu. Et peut-être que ça sera les plus beaux moments de sa carrière. Oui, il va peut-être les vivre maintenant.
Il faut qu'il ait énormément de maillots jaunes en France du peloton avec la gagne en fait.
Christophe Cessieux.
Non, je veux dire, pour qu'il soit entièrement reconnu par le public, il faut qu'il arrive mardi en France avec le maillot jaune. Parce que là, on est en Italie, en plus. Et en plus, les Italiens l'adorent. Mais évidemment, la popularité pour lui, elle se fera en France. Et s'il part
c'est possible, ça, Christophe?
Mardi avec le maillot jaune. Ah, écoute, aujourd'hui, tout ça va être jouer, dur. En fait,
est-ce qu'il peut le garder jusqu'à mardi?
Ça dépend de Pogacar. Ça dépend de Pogacar s'il déclenche la bagarre dans la côte de San Luca. On aimerait bien lui dire, on peut lui jeter des clous sur la roue.
Lui dire qu'il attende avant de lancer la bagarre avec Vingegaard. Tu vois, ils sont plus à 2-3 jours près.
Lui, il attend pas beaucoup.
Ouais, mais non, mais Christophe, c'est
pas le genre à attendre.
On peut peut-être aller plus loin là-dessus, Christophe. Est-ce que on se souvient évidemment de Thomas Vauclair? On se souvient de Julien Alaphilippe? Est-ce qu'on peut rêver à ça ou ça paraît illusoire? Est-ce qu'on peut rêver de 10 jours en jaune?
Moi, je pense que c'est un peu illusoire. Ça va dépendre en fait d'aujourd'hui, parce que s'il aujourd'hui, passe aujourd'hui, oui. il est tranquille jusqu'au chrono. Donc, ça ferait une semaine avec le maillot jaune. Parce que je pense que l'étape de mardi qui va conduire le peloton à Valoire en passant par le Galibier, ça c'est le genre d'effort qu'il peut arriver franchement à passer sans encombre. Mais tout va dépendre d'aujourd'hui, parce que s'il y a la grande bagarre, il y a que 15 secondes d'écart hein, entre Romain Bardet et Tadej Pogacar qui hier est resté sur la réserve, mais je pense qu'aujourd'hui, s'il a vraiment les jambes, s'il ne se ressent pas du Covid qu'il nous a annoncé avoir eu il y a quelques jours, je pense qu'il va déclencher la bagarre. Il est obligé de tester Vingegaard, et évidemment ces garçons-là, je le disais tout à l'heure, s'il n'y avait pas eu des Froome, s'il n'y avait pas eu des Pogacar, eh bien Bardet aurait sans doute eu une carrière encore plus exceptionnelle. Mais bon, voilà, si ça passe aujourd'hui, il peut ramener le maillot jaune en France.
Oui, et puis on peut aussi se dire que Romain Bardet, eh bien, il a été pris aussi dans ce tourbillon médiatique qui veut qu'un Français doit jouer le général du Tour de France, et il a voulu
Il
a voulu avoir cette responsabilité sur les épaules, et donc ce qui fait qu'il a à chaque fois joué le classement général. Cette année, il a dit il ne le joue pas, et comme par hasard, il a le maillot jaune au bout de la première étape, et on espère qu'il va le garder le plus longtemps possible. Merci beaucoup Christophe Cessieux. On te retrouve à partir de 13h le dimanche, c'est 13h l'intégral tour, l'étape en intégralité, la deuxième étape du tour avec cette arrivée à Bologne. Christophe Cessieux avec toute la bande évidemment que vous connaissez par cœur. Sachez également qu'il y a la radio digitale 100% route le dimanche, c'est de 11h à 13h actuellement avec Jérôme Pinault et tous nos envoyés spéciaux. Et puis sinon, le reste de la semaine, c'est midi 14h pour l'intégral tour, pour la radio digitale 100% tour. Bref, vous ne ratez rien de ce Tour de France 2024. Merci Arnaud Souk, merci Christophe Cessieux. On accueille une grande gagnante, elle s'appelle Déborah. Bonjour Déborah.
Bonjour à tous.
La grande gagnante aujourd'hui dans les grandes gueules du sport pour participer à une étape du Tour avec, eh bien, une arrivée aux premières loges, l'espace VIP situé sur la ligne d'arrivée. Bravo Déborah.
Oh là 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 là, bah là, je vais faire un heureux. Hein.
Allez, oui, c'est qui? C'est qui l'heureux?
Ah bah c'est mon conjoint qui est juste avec moi et qui est passionné de vélo.
Ah génial, alors vous allez pouvoir, vous habitez où?
À Maison Alfort.
Ah oui, donc c'est en région parisienne. Ouais. Bon, je vous propose trois étapes. Soit le mercredi 10 juillet avec l'arrivée à Saint-Amand-Montrond, soit le 12 juillet l'arrivée à Pau, ou alors le 18 juillet l'arrivée à Barcelonnette. Vous avez déjà une idée ou pas?
N'allez pas à Pau.
Ah oui, oui, c'est évidemment, le monsieur de Limoges. Vous allez où? Vous savez ou pas encore?
Alors Nicolas, qu'est-ce que t'en penses?
Je ne sais pas encore pour le coup. Il faut qu'on se décide là maintenant.
Non, on vous laisse réfléchir un petit peu, vous inquiétez pas, tranquillement. Moi, je vous conseille comme ça, peut-être le Gap Barcelonnette, le jeudi 18 juillet. Je pense que ça peut être pas mal. Bon, vous réfléchissez tranquillement et vous allez vous régaler. Hein. Deux places pour vous dans la caravane du Tour de France grâce à Tourtel Twist.
Génial. Merci beaucoup.
C'est super, merci à tous. Hein.
Allez, régalez-vous et écoutez évidemment le Tour de France sur RMC.
Jouez et gagnez sur RMC votre place pour une étape du Tour de France au cœur de la caravane Tourtel Twist. La bière sans alcool, 0,0%.
Ça fait plaisir de faire des heureux sur RMC dans les heureux du sport. Oh oui, 11h28, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Nous allons accueillir une grande championne, peut-être porte-drapeau de la délégation française. C'est Mélina Robert-Michon qui est avec nous ce matin dans les grandes gueules du sport. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct d'Angers.
Jean-Christophe Drouet.
11h31 de retour pour les grandes gueules du sport à Angers à l'occasion des championnats de France d'athlétisme. Nous sommes à un mois des Jeux Olympiques et il y a encore des billets à distribuer, notamment pour Renaud Lavillenie qui doit passer aujourd'hui, c'est sa dernière chance, 5m82. Sachez que nous serons en direct et que vous allez suivre ce moment sur RMC. C'est à partir de 13h le concours de la perche, toujours avec Fred Weiss, Sarah Pitkowski, Ludovic Duchesne, Pierre-Ambroise Boss. Dans une dizaine de minutes, Teddy Tamgo sera notre invité exceptionnel, mais tout de suite nous accueillons une grande championne. 6 participations aux Jeux Olympiques, rendez-vous compte, médaillée d'argent des JO. Mélina Robert-Michon est notre invitée. Bonjour Mélina.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. 2 heures avant le concours du disque des championnats de France.
C'est parce que je vous aime bien.
Ah, ben nous aussi, ça nous fait plaisir. C'est rare d'avoir un athlète qui arrive juste avant sa compétition. Bon, il faut dire que Mélina Robert-Michon n'a jamais gagné les championnats de France. Ah si, je révise mes notes, 23 titres de championne de France. Est-ce qu'on a toujours la même pression quand on va chercher un 24e titre?
Ben, il faut, je pense que le jour où je l'aurai plus, je pense que c'est là où ça sera le temps d'arrêter. Non, non, après, il y a encore des enjeux. J'ai envie d'améliorer ma meilleure perf de l'année. Donc, non, il y a de quoi faire encore.
Il y a des enjeux. On pense surtout là maintenant aux Jeux Olympiques ou on pense à gagner le concours? Est-ce que c'est véritablement important ça?
Oh, ben, les deux sont liés. Je pense que si je fais une bonne perf, c'est bon pour les Jeux et ça me permettra de gagner. Donc, quoi qu'il en soit, faut lancer loin.
Bon, je te présente autour de la table les grandes gueules du sport. Sarah Pitkowski, Ludovic Duchesne, Fred Weiss. Pierre-Ambroise Boss, hein, que tu connais parfaitement. Sarah, une question pour Mélina Robert-Michon. Bah,
moi, je vais revenir sur le fait d'être avec nous, là, autour du micro, comme on dit, à quelques heures d'une compétition. Est-ce que c'est la maturité et l'âge faisant qu'on est capable de gérer beaucoup plus de choses autour de sa performance? Oui, je pense qu'il y a... Voilà, après, c'est aussi des championnats de France. Je pense que je ne suis pas sûre que je le ferais sur une plus grosse compétition. Mais là, voilà, c'était assez facile à faire. J'ai le terrain d'échauffement à 10 mètres. Donc, dès que je vous quitte, j'y vais, je me remets dedans. Et puis voilà, je pense que c'est... J'arrive mieux maintenant à me mettre dedans, à en sortir un peu de ma
bulle. C'est-à-dire comme un bouton, voilà. On appuie.
Voilà, t'es on-off et ouais. Puis tu te remets dedans et puis c'est parti.
Donc ça a du bon, la maturité.
Oui,
l'expérience.
Oui, heureusement. En fait, il faut quand même quelques avantages.
Mais Gina, mon cœur saigne, t'es quand même en train de nous apprendre que 2 heures avant la compétition dans un mois des Jeux Olympiques, tu ne seras pas avec nous sur RMC.
Non, je suis désolée.
Ça fait mal quand même. Ouais. Ludovic Duchesne.
Mais Lina, t'es la preuve vivante qu'on peut être donc championne et maman. Et je dis ça parce que dans d'autres sports, et principalement le foot, on en est encore à mettre une maternité quand on fait une grande compétition à l'étranger, etc. Et des discussions à l'infini. C'est donc possible?
Oui, c'est possible. Je dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Et je pense que ça, c'est beaucoup l'entourage qui va jouer et justement tout ce qu'on va mettre en place pour accompagner les femmes qui font ce choix-là. C'est vrai que quand moi, ma plus grande maintenant va avoir 14 ans, donc je pense qu'il y a 14 ans en arrière, on était loin de tout ça. On voit qu'il y a des choses qui ont avancé. C'est encore pas parfait, mais on partait tellement loin, j'ai envie de dire que de toute façon, c'est forcément mieux. Après, voilà, je pense qu'il faut encore... c'est encore un peu dans cet inconscient de dire oui, enfant, gale, fin de carrière, alors que voilà, on a plein d'exemples. Et de plus en plus, et tant mieux. Après, moi, c'est aussi pour ça que j'en parle, parce que j'ai envie de banaliser un petit peu ça. C'est pas mon objectif, c'est pas que toutes les athlètes aient des enfants pendant leur carrière, c'est juste que celles qui veulent le faire aient le choix de le faire. Et la possibilité de le faire, et que ce soit pas une souffrance, et que ce soit pas quelque chose qu'elles... Voilà, malheureusement, on a vu des athlètes voilà, qui ont des fois arrêté leur carrière plus tôt que prévu, voilà, qui ont été frustrés de cette fin de carrière, qui ont été frustrés parce qu'elles n'ont pas eu cette maternité. Donc là, le but, c'est voilà, celles qui veulent faire, on a le choix de faire, chacune fait comme elle veut, mais en tout cas, le but, c'est d'accompagner au mieux possible. Et là-dessus, il y a encore des progrès à faire, même si on a quand même progressé, on va le souligner.
Mélina Robert-Michon est notre invitée exceptionnelle dans les grandes gueules du sport ce matin. Fred Weiss.
Oui, alors Mélina, moi j'ai une question par rapport à ta longévité. Tu as commencé les Jeux Olympiques à Sydney en 2000.
Oui.
Moi aussi. Sauf que toi, tu en as fait 5 de plus après. Donc tu peux nous expliquer la différence.
Est-ce que juste tu es en train de te comparer, en train de dire moi aussi j'ai eu une médaille d'argent?
Ah non, pas, je parlais de, je parlais de longévité, du fait qu'elle ait fait 6 Jeux Olympiques quand même.
Oui, après je pense que jamais, si on m'avait dit justement sur mes premiers que je serais encore là 24 ans plus tard, je pense que j'aurais rigolé et j'aurais pris les personnes pour des dingues, mais je pense que je me suis pas posé la question et c'est certainement pour ça que ça marche aussi. Je pense que je fonctionne, j'ai beaucoup fonctionné à l'Olympiade, me dire allez j'en refais une, encore, voilà, je me suis jamais projeté aussi loin et je pense que c'est ce qui fait que ça marche aussi. Et puis tant que je pense qu'il y a aussi, voilà, je m'éclate dans ce que je fais, tant que je suis capable de faire des performances aussi, parce que c'est pas le but, c'est pas d'être là pour être là. Si je suis là, c'est parce que je sens qu'il y a encore des choses à faire. Et je me dis surtout que j'avais pas envie, en fait, de me dire dans 5 ans, 10 ans, si j'avais su, j'aurais peut-être dû. Voilà, je tente tout. Et puis, ça marche ou ça marche pas, mais en tout cas, je mets tout ce qu'il faut. Et pour l'instant, les perfs sont encore là. Donc, c'est surtout ça qui est intéressant.
Et donc, Paris, c'est les derniers ou tu vises le centenaire?
J'ose plus rien dire, moi, parce que les premiers derniers, c'était en 2012, donc après on va me dire que non, je sais pas en fait. Non,
incroyable,
je pense pas, mais...
comme un groupe de rock, quoi. Ouais, on annonce la retraite et puis on
tournée d'adieu plusieurs fois.
Voilà, tournée d'adieu, je m'arrête plus. Non, voilà, je pense que quand je me sentirai plus compétitif, de toute façon, ça m'intéressera moins, donc j'aurai plus ce truc-là. Moi, m'entraîner, c'est pas le truc qui m'éclate. Ce qui m'éclate, c'est la compète, c'est tout ce qui va avec. Donc
le son de jeunesse.
On verra. Pas. Je dis plus non.
mais ça m'étonnerait.
Ok, Pierre-Ambroise Boss avec Mélina Robert-Michon.
Il va falloir qu'elle nous dise quand même son secret. Hein. À un moment donné, moi je me souviens, tu étais déjà la doyenne quand j'ai commencé ma carrière. Tu n'as pas pris une ride là comment, c'est quoi
Je les enterre tous, les uns après les autres.
C'est Mélina Robert-Button, en fait. Elle va dans l'autre sens. Et du coup, par rapport en 2016, tu te situes comment? Il y a eu un tour d'essai au championnat d'Europe, mais toi, c'est les Jeux qui comptent. Donc,
C'est vrai que les Europes, les années olympiques, c'est toujours un peu compliqué. L'année de Rio, j'avais fait 6e, là je fais 7e, donc je me dis que je suis sur les bonnes bases. On va dire, mais en fait, je pense que justement le recul, la maturité fait que là cette année, on a vraiment fait le choix. On avait fait le choix en fin de saison dernière de faire beaucoup de compétitions pour avoir cette assurance du ranking et d'avoir cette qualification presque assurée pour justement se dire je vais pouvoir me préparer et m'entraîner. Voilà, dans ma tête cette année, il y a qu'un truc qui compte, c'est les Jeux. Donc voilà, j'ai fait toutes les autres compètes, il fallait les faire, mais il n'y a pas ce truc qui fait que. Que c'est la vraie compète.
Et tu trouves que c'est une bonne chose le ranking justement? Ça a bien changé depuis et...
Nous on s'est adapté en fait. On a joué avec les règles qui étaient en place. Une bonne chose. Pour certains aspects c'est bien. Parce que par exemple nous au disque, on sait que le bilan des fois est tronqué par rapport aux conditions météo, avec le vent qui joue beaucoup. Donc pour ça c'est mieux. Mais pour d'autres choses, quand t'as pas accès au meeting, quand suivant où tu es, enfin c'est... Le système est aussi à revoir. Je pense qu'il est encore à améliorer parce qu'on le voit, ça crée quand même des biais et puis des trucs à suivre pour le grand public. Les qualifications, ça devient un truc impossible.
Et je rappelle évidemment qu'il y a des minima pour faire les Jeux Olympiques, mais que même si on fait les minima, par exemple, la Fédération Française d'Athlétisme a instauré d'autres critères, notamment ce ranking, et bien qui, même si on fait les minima, ne permettent pas de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Et donc c'est de ça dont vous débattez. C'est fou, on a passé 6 minutes avec Mélina Robert-Michon, il n'y a pas encore une question sur les portes.
Mais si, elle arrive, elle est là. C'est un peu le feuilleton, effectivement, depuis plusieurs mois. Ça va être annoncé quand? Est-ce que tu as quelques informations à nous révéler?
Alors,
ça
sera annoncé. Tu es entraîné à porter un drapeau,
oui,
déjà.
Oui, non, pas trop. Je peux
déjà vous donner les modalités. Hein. Il y a donc 16 porte-drapeaux, 16 candidats. Il y a des hommes, des femmes. Il y aura un homme et une femme pour porter le drapeau lors de la cérémonie d'ouverture. Il y a un vote des athlètes qui va se passer début juillet. C'est donc la semaine prochaine.
À partir du 8.
Oui, c'est ça. À partir du 8 et le 11 juillet, il y aura le résultat de ces votes parce que ce sont les sportifs qui participent aux Jeux Olympiques qui élisent le porte-drapeau.
Tu te sens comment? Est-ce que tu as des retours par rapport à ça? Moi, je suis prête. Hein. C'est sûr que c'est un rôle qui est quand même assez magnifique. Les Jeux Olympiques, c'est déjà quelque chose qui est très fort pour moi. Et d'avoir la possibilité de porter ce drapeau, de représenter l'ensemble de la délégation, c'est quelque chose qui serait très, très fort. Pour moi, je n'ai même pas de mots pour définir ça. Mais voilà, ça reste une élection. On sait que ça peut être...
Tu peux faire du lobbying par rapport à ça? Tu peux essayer d'en parler un petit peu?
Après, je pense que moi, mon idée, c'est de rester ce que je suis, en fait. C'est de dire, voilà qui je suis, voilà mes valeurs, voilà ce que je représente. Après, chacun a sa propre définition d'un bon porte-drapeau. Il y en a, ça va être la performance, il y en a, ça va être plus la personnalité, les valeurs, enfin... Là, ça va être une élection par les athlètes, donc de toute façon, ça sera forcément un beau et une belle porte-drapeau, puisque ça sera le choix des athlètes. Donc,
mais t'es vraiment une figure tutélaire de l'équipe de France de manière générale, par le nombre de...
À 7 Olympiades quand même.
Oui, effectivement, avant que ça soit dépassé, mais tu représentes tellement de choses.
Je précise qu'il y a 14 porte-drapeaux et non 16, et qu'il y a 8 femmes, et donc Mélina Robert-Michon fait partie de ces 8 femmes.
Mais elle a ta représentation, ta représentation en tant que... Pour la longévité, pour ton abnégation, d'être précurseur. Quand tu dis que ta plus grande fille a 14 ans, et effectivement, les choses ont bougé, mais il fallait être sacrément précurseur pour se dire je vais mener de front ma carrière de sportif de haut niveau et je ne veux pas faire de choix en étant que maman.
Un beau saut dans le vide.
Oui, c'est là que on doit te regarder avec des yeux. Et voilà, en tout cas, personnellement, je trouve que vraiment tu représentes la figure parfaite pour être porte-drapeau.
Alors, c'est gentil. Faites un effort, qualifiez-vous et venez voter pour moi.
C'est ça. On peut encore se qualifier. C'est le dernier jour aujourd'hui, hein, donc choisissez votre discipline et allez-y les copains. C'est très marrant ce que tu dis, Sarah, parce que c'est une véritable passe décisive pour moi, parce que je suis très heureux de recevoir Mélina Robert-Michon, parce que j'avais une question absolument à lui poser, parce que dans les grandes gueules du sport, même si nous ne votons pas, eh ben, j'ai fait plusieurs débats où je leur demandais, pour vous, qui est le meilleur porte-drapeau, l'homme, la femme? Souvent l'homme, c'était Florent Manaudou. Ouais. Franchement, à 90%, tout le monde m'a dit Florent Manaudou. Et à 95%, tout le monde m'a dit Mélina Robert-Michon.
J'espère que ça me portera chance alors. On verra si vous êtes bon.
On n'a aucun poids. Hein. Rappelle-toi qu'on n'a aucun poids.
Non, après, on sait, hein, une élection, il y a plein de facteurs qu'on ne mesure pas. Donc moi, je reste prudente par rapport à ça parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et en plus, je veux dire, il y a du beau monde en face aussi. C'est pas comme si... voilà, on a quand même 8 possibles porte-drapeaux avec chacune leur histoire, chacune...
Avant de te libérer, parce que je sais que tu as quand même un concours à préparer, dernière question. Tu préfères... Oula. Est-ce que tu préfères une médaille au jeu? Encore une médaille, mais... pas porte-drapeau, ou alors une belle quatrième place, franchement une très belle finale, mais porte-drapeau.
Là, c'est dur. Franchement,
les deux.
Mais
au moins l'or.
On est obligé de choisir.
Si au moins la médaille d'or.
Si c'est pas la médaille d'or, je préfère. Non, mais après.
On est entre nous là. Il y a un million de personnes qui nous écoutent. Tranquille, Ménière.
Non, mais tu peux pas dire à une compétitrice si tu veux une médaille ou tu veux. Tu peux rien mettre face à une médaille d'or olympique. C'est pas. Il y a rien.
Et c'est possible. C'est possible cette année.
Bah oui, c'est possible. C'est moi. Je fais tout pour. Après, je sais pas ce que va nous réserver l'avenir. Mais en tout cas, je sais qu'il faudra. Je suis lucide par rapport à ça. Je sais qu'il faudra que je sois au-delà de mon record. C'est pour ça que je m'entraîne. C'est pour ça qu'on a fait ces choix forts d'entraînement, de dire j'ai pas fait beaucoup de compétitions cette année pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté.
Après, on y va pas juste pour participer, on y va aussi pour gagner quelque chose. Voilà. Avec Mélina Robert-Michon qui va disputer ses 7e Jeux Olympiques. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et bon championnat de France.
Merci beaucoup.
Un 24e titre, certainement, dans quelques heures. Merci d'avoir été sur RMC. On se retrouve dans quelques instants avec un autre invité exceptionnel. Lui n'a pas réussi son défi fou de se qualifier pour les JO après 5 ans à la retraite. C'est Teddy Tamgo qui sera notre invité. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport en direct d'Angers.
Jean-Christophe Drouet.
11h46, les grandes gueules du sport à Angers pour les championnats de France d'athlétisme. Toujours avec Sarah Pitkowski, Ludo Duchesne, Pierre-Ambroise Boss et Fred Weiss. Et nous allons accueillir maintenant une grande gueule. Teddy Tamgo, bonjour.
Bonjour.
Teddy, un ami d'RMC, Teddy qui a tenté l'exploit de revenir après 5 ans d'absence. Il était parti à la retraite, l'exploit de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Malheureusement, ça n'est pas passé hier, tu n'as pas réussi les minima. Teddy, dans quel état d'esprit tu te trouves un jour après?
Assez relâché, je suis content d'avoir terminé définitivement cette fois-ci ma carrière. Donc je suis.
Tu vas pas nous faire le coup, c'est ça?
Non, c'est bon. Non, ça va.
Même Los Angeles, il n'y a pas le retour
non,
de Teddy Tamgo, c'est
impossible.
C'est sûr.
C'est impossible. C'est vraiment impossible. L'année dernière, en fait, quand j'ai décidé de reprendre, c'était vraiment parce qu'il y avait les Jeux Olympiques à Paris. Il y avait vraiment une carotte qui était intéressante. Mais voilà, maintenant, il faut savoir accrocher, il faut savoir partir. Et déjà, moi-même, je parlais souvent aux anciens en leur disant il faut laisser la place aux jeunes. Et là. Je pense que c'est le moment de mettre cette parole en action.
C'était un défi fou, hein. On en parlait, on en a parlé dans cette émission, et tout le monde avait envie qu'il se réalise, hein. Tout le monde avait envie de voir le showman Teddy Tamgo au triple saut à Paris. Y a une profonde déception, ou franchement, toi, le sportif de haut niveau, tu passes vite à autre chose?
Je serai à Paris déjà, parce que je suis entraîneur d'Olympique.
Bien sûr.
Donc j'ai diversifié mes actifs à ce niveau-là, pour être sûr d'y être. Maintenant, non, je suis pas déçu. Vraiment, je suis content de ce que j'ai fait. Il faut savoir que, comment dirais-je, je me suis préparé pour tenter de me qualifier, mais j'avais une vie qui était assez remplie. C'est-à-dire que je suis reparti à l'école. J'ai passé un MBA en un an. Normalement, un MBA, c'est en 2 ans. Là, je l'ai passé en un an. Derrière, j'étais entraîneur. Je m'entraînais. C'était assez, c'était assez copieux. Et
c'était trop,
je savais
non
que... Comment ?
C'était trop.
Disons que on pourrait me dire trop, mais je me sentais vivant à ce moment-là. Je suis une personne, j'ai compris avec le temps que quand je m'ennuie, je fais des bêtises. Et je pense que clairement, ça a été ma meilleure année. Clairement, c'est la meilleure année.
À quel titre, meilleure année?
Meilleure année de ma vie.
Sur le plan personnel?
Sur le plan personnel, oui. Ça veut dire que j'étais toujours actif. Ça veut dire que je me levais à 7h du matin. Pour me préparer pour les cours à 9h. J'étais dans une classe internationale. On avait plus d'une vingtaine de nationalités, donc un échange extraordinaire. Je finissais les cours à 16h30. J'allais directement prendre le tram pour entraîner mes athlètes. Derrière, si j'avais un peu de temps, je m'entraînais. Parce qu'il faut savoir que je m'entraînais par semaine, 2-3 fois par semaine. Quand j'ai fini les cours, la saison régulière au niveau scolaire, au mois d'avril, que j'ai commencé à pouvoir m'entraîner. J'ai pu vraiment m'entraîner. Après, j'ai eu quelques problèmes, donc au mois de mai, c'est pour ça que j'ai pas pu être en compétition. Mais voilà, mes journées étaient assez solides. Et après, derrière, après autour de 20h, il fallait après faire les devoirs, faire des calls, conférences avec.
C'est comme ça que t'as perdu 16 kilos.
Non, ça pour ça j'ai un ancien lanceur de javelot qui était en équipe de café des équipes de France jeunes, qui est passé culturiste et je sais que il connaît justement la problématique du sport de haut niveau et c'est lui que j'ai missionné justement pour s'occuper de cette partie.
C'est de la radio, vous ne le voyez pas Teddy Tamgo, mais il est affûté comme jamais. Ah, hein, c'est fou, hein. C'est fou.
C'est
fou. Et Teddy Tamgo, c'est assez dingue parce qu'on est très heureux de te recevoir sur RMC. Hier après le concours, pas déçu, ok, pas de JO, pas de problème, mais j'ai d'autres ambitions, d'autres perspectives. Attention, discours à la Teddy Tamgo, on écoute.
Un long moment que les athlètes m'en parlent du fait que je peux apporter justement à la fédération, que mon discours, ma vision match avec la leur. L'euro, je sais pas. Pour le moment, il y a rien qui est dessiné et j'ai balancé le truc parce que je sens que là maintenant que c'est terminé, mes yeux s'ouvrent vers d'autres horizons. Pas mal de fois, moi je vais le dire maintenant parce que avant je pouvais pas le dire. Combien de fois les athlètes sont venus en cachette sur Instagram, sur les trucs comme ça pour me dire des choses. Ça veut dire que tout ce qui se passe limite à la fédération, je suis au courant en fait dans les messages qu'on envoie aux athlètes, etc., etc. Je suis au courant de tout. Vous avez vu ce qui s'est passé? Il y en a un qui est convoqué parce qu'il a mis quelque chose sur Instagram.
On va revenir sur cette histoire dans un second temps, parce qu'il faut que je réexplique pour les auditeurs. Mais Teddy Tamgo est déjà en campagne.
Non, on va pas dire que je suis en campagne. Je pense que j'ai balancé ça parce que c'est une porte aussi que je ne ferme pas. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que je vais la catcher, que je vais rentrer, je vais tenter le coup.
Mais ça t'intéresse.
Disons que c'est une possibilité qui est dans mon champ de vision. Je suis une personne, en fait, comme je le disais hier, je n'aime pas me fermer à une proposition, une possibilité. J'aime bien en avoir plusieurs et après prendre le temps de mûrement réfléchir à tout cela, poser le pour et le contre, les opportunités, les risques aussi, et après choisir.
Parce que c'est vrai que la fédération, et là j'en viens à cette histoire, la fédération a beaucoup été décriée. Alors au début c'était sur le sportif, est-ce qu'il y aura du zéro pointé au JO de Paris, on s'est posé la question. Puis après il y a eu ces championnats d'Europe où deux athlètes ont failli ne pas concourir à cause d'une erreur administrative. Là il y a eu les championnats d'Europe et on se dit, ah ça y est, on y est, tout va bien, ça se passe bien sur le plan sportif. Et quelques jours après, on apprend, et notamment Hugo Hay, qui est un spécialiste du 5000 mètres, qui avait réagi par rapport à cette erreur administrative et qui s'était un peu moqué. Comme d'autres, hein, Sacha Zoya aussi s'était un peu moqué sur les réseaux sociaux de la fédération. Ils ont été convoqués, ils ont reçu une lettre de convocation. Ça, tu peux pas le supporter, ça, tu comprends pas.
Bah, disons que nous sommes dans un pays démocratique. On est clairement dans un pays démocratique. On se plaint justement de certaines dictatures.
Encore, oui.
Et je pense que encore.
Quelques heures.
Et je pense que.
Vas-y, on parle pas de politique.
Pas de politique.
Non, c'est mieux.
C'était pour expliquer un peu le contexte global.
Parlons de politique sportive. Ça.
Exactement. Et je pense que les athlètes, ils ont leur mot à dire. C'est eux qui courent, c'est eux qui concourent. C'est-à-dire que c'est eux qui vivent le stress, c'est eux qui s'entraînent, c'est eux qui risquent la blessure. Et quand on est dans une situation où on a deux athlètes qui ont failli pour des problèmes informatiques ne pas aller au championnat d'Europe. Et qu'il a fallu que ce soit le syndicat des athlètes au niveau européen qui a dû taper du poing parce que en fait ça a enlevé clairement des places pour d'autres pays et aussi pour les athlètes puisqu'ils étaient aussi lésés par rapport à cette situation et c'est eux qui ont réussi justement à faire bouger les choses. Je trouve que les athlètes ont le droit d'être frustrés, ils ont le droit de dire ce qu'ils pensent.
Le dire surtout.
Et le dire clairement. Et
c'est la Fédé qui aurait dû être sanctionnée.
Ah ça après je suis pas une personne compétente pour
pas encore
pour juger de cela
bientôt. Non mais c'est un vrai débat. Hugo Hay dit voilà, il y a un petit peu de censure, on veut essayer de nous contrôler. Je sais pas comment ça se passe dans toutes les fédés, on peut comprendre qu'une fédé a envie de contrôler ses sportifs, mais est-ce que par rapport à cette fédération d'athlètes, c'est un problème et ça peut nuire aussi à la performance?
Moi déjà, je pense que il faut prendre du recul par rapport à la situation et l'avoir à 360. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, ce qu'il n'y avait pas il y a une vingtaine d'années en fait. Et les générations changent. Aujourd'hui, on est face à une nouvelle génération qui a évolué, qui a ses habitudes. Ils ont l'habitude de réseaux sociaux, Twitter, Instagram, ça balance ce qu'ils ont à dire, ils le disent, etc. Ils expriment un peu plus leurs émotions, leurs pensées. Et je pense que quand je regarde la fédération, il faut pas non plus tout jeter. La fédération fait aussi de belles choses aussi. Il faut être objectif. Mais voilà, je pense que il faudrait que, en tout cas, qu'elle se rapproche un peu plus, à leurs athlètes. Il faut qu'il y ait un rapprochement clairement qui soit effectué. Je pense qu'il faut qu'ils les écoutent. Je pense qu'il faut qu'ils comprennent surtout que voilà, c'est pas la même génération, c'est pas notre génération, on va dire dans les débuts d'année 2010 ou même plus loin avec par exemple Romain Barras qui est clairement un athlète des années 2000. c'est pas la même chose, c'est pas la même génération, c'est pas les mêmes codes. C'est pas les mêmes mœurs, les mêmes codes, etc. Donc je pense qu'il faut le comprendre, et je pense qu'aussi qu'on a nos... Enfin, je pense que les athlètes, parce que j'en suis plus un depuis hier, mais je pense qu'ils ont leur mot à dire et je pense qu'il faut les écouter, en fait.
En fait, Teddy, c'est pas une fédération de contrôler la parole des athlètes. La Fédération française de foot, avec Philippe Diallo, a essayé de le faire. Mbappé, Dembélé, Thuram, ils ont dit ce qu'ils avaient envie de dire. C'est, tu ne peux pas contrôler la parole des athlètes, et heureusement.
Mais non. Bah, regardez aujourd'hui sur le plan sociétal, si on part sur ce niveau, bah, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les gens disent beaucoup plus ce qu'ils pensent. Beaucoup plus de manifestations, il y a beaucoup plus de revendications, parce qu'aujourd'hui, on est. Enfin, on évolue, on est face à une nouvelle ère. En fait, il faut l'accepter, en fait. Et comme on dit, il y avait un grand homme qui avait dit que justement, au moment où on arrête d'être, ainsi, peut-être que je me trompe sur la citation, mais à partir, on arrête d'être intelligent à partir du moment où on n'évolue plus, on ne s'adapte plus, on ne se remet plus en question. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être le nerf de la guerre pour toutes les fédérations.
Teddy Tomgo, un peu de provoque. Teddy Tomgo, président d'une fédération.
Non,
DTN,
jamais.
Directeur de la haute performance.
Jamais président.
Pourquoi ?
C'est trop politique. Je suis pas politique.
Bah justement, Teddy, quand j'entends ce que tu disais hier, et on le sent que tu le dis à chaud, et là, ce que tu dis plutôt à froid, c'est-à-dire de faire de créer des passerelles entre finalement les dirigeants de nos fédérations et les athlètes, parce que les dirigeants n'ont peut-être pas les mêmes âges que les athlètes en général, et qu'il y a des fossés qui se sont creusés. Il va falloir l'avoir, ce petit discours politique. Parce que ce qu'on peut lire, il y a eu des athlètes dans d'autres fédérations qui ont essayé de rentrer dans leur fédération, de se proposer pour être entraîneur national. Hein. Et qu'est-ce que ça a été compliqué.
Et pardon, si tu veux changer les choses, c'est de l'intérieur, c'est en étant président.
Ou président, enfin, oui, c'est autre chose, mais il va falloir mettre.
Et dit président, c'est ça.
Non, jamais.
Il va falloir arrondir les angles.
Nous, on soutient en tous les cas.
Il ne faut jamais dire jamais, mais disons que c'est pas un poste qui m'intéresse. Après, je ne pense pas que ce soit une question d'âge, c'est une question de plasticité cérébrale. D'accepter justement de se remettre en question, justement d'accepter l'évolution et justement de ne pas être réfractaire. Ça veut dire que je vais aller plus loin, je vais être extrême dans l'exemple, mais c'est pour que vous compreniez mon propos. C'est que par exemple, quand je vois justement les athlètes cubains aujourd'hui qui sont toujours lésés, ils sont lésés parce que justement ils sont face justement à un gouvernement, à un système qui est en place et qui ne bouge pas, en fait, sauf que les athlètes ont bougé. Quand ils partent en compétition, ils voient justement le monde comme il est, en fait, à 360, pas simplement à travers les yeux de Cuba. Et ils sont frustrés. Et on regarde aujourd'hui, si vous regardez aujourd'hui, les Cubains partent de plus en plus parce que justement, ils ont des dirigeants justement qui sont
loin de la réalité.
Exactement. Et je pense que justement, c'est là où il faudrait, en tout cas, qu'on s'ouvre. C'est là qu'il y a une perspective, en fait, d'évolution.
Merci beaucoup, Teddy Tomgo, d'avoir été avec nous sur RMC. Un ami d'RMC, tu reviens évidemment quand tu veux.
Il n'y a pas de problème.
Et on suivra
une bonne émission.
Les ouailles durant les Jeux Olympiques parce qu'il y a des médailles à aller chercher. Hein,
complètement.
En triple saut.
Complètement au triple saut, bah forcément avec Fabrice Zongo. Il y a aussi, là tout à l'heure, j'ai Willem que je dois gérer. J'ai Jean-Marc Pogan aussi.
110 mètres, ouais.
Exactement. Donc c'est pour ça que je serai aux Jeux Olympiques. Je vais me donner à 100% maintenant, de toute façon, sur ce mois de juillet. Je vais faire que ça, en fait.
Bon, tu reviens sur RMC, en tout cas.
Il n'y a pas de problème.
Merci, Teddy Tomgo, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et c'était un plaisir de te suivre et de t'accompagner dans ce défi fou. Hein. On avait envie, en tout cas, que ça passe, mais je sais qu'il y a encore de belles perspectives pour toi. Merci, Teddy Tomgo. Je remercie également les GG ce matin. Sarah Pitkowski, Ludovic Duchesne, Pierre-Ambroise Boss pour sa première. Ça s'est bien passé?
Très, très bien.
Très bien.
Un bel invité pour la fin, quand même. Rappelez quand même recordman du monde, champion du monde. Il faut quand même le souligner.
Exactement. Pierre-Ambroise Boss qui sera avec nous durant les Jeux Olympiques. Merci également, Fred Weiss. Merci les GG. On reste évidemment en direct d'Angers pour les paris RMC. Sachez qu'à partir de 13h, le concours à la perche, la dernière chance pour Renault, la Villeni. Vous allez tout suivre sur notre antenne. Nous, on se retrouve dans quelques instants, les paris RMC autour de l'Euro, notamment. Et ce match France-Belgique, c'est demain. À tout de suite sur RMC.